Bifurcation.
Bifurcation.
Bifurcation, épisode 9, septembre, il y a comme un vendange.
Hello.
Hello.
On espère que vous allez bien. Pour notre mois de septembre, voilà le programme.
Une semaine à Orléans, avec un rendez-vous intéressant pour notre projet avec la mairie de notre ville d'origine. Puis, retour chez Yann, où le raisin est dans la place. Enfin, direction l'Essonne, chez Sylvie et Florent de la ferme Sapousse.
Allez, c'est parti, on vous raconte.
Il y a quelques mois, on a entendu parler d'un achat de terrain par la mairie d'Ingré, là où on a grandi. Leur projet est d'y installer un maraîcher sur 1,5 hectare.
Et puis, en août, on a rencontré une maraîchère lors d'un stage à la ferme Sapousse, qui a été le voir ce terrain. Elle a hésité à candidater, donc ça nous a fait un peu cogiter.
Serait-ce l'occasion de commencer notre recherche de terrain ? Ça nous semble un peu tôt, mais les conditions sont sympas.
D'abord parce qu'on connaît bien le territoire, on sait qu'il y a du potentiel pour des produits maraîchers, bio et locaux. Il y a aussi pas mal de nos proches dans le coin, et ça a un côté rassurant si on veut s'installer de se savoir entouré.
Et cerise sur le gâteau, la mairie est propriétaire du terrain et veut proposer un loyer modéré pour donner un coup de pouce à l'installation. Elle finance aussi la construction du forage pour l'accès à l'eau et assure le raccordement du terrain à l'eau potable et à l'électricité. Ce sont de belles conditions pour s'installer sans faire trop d'investissement de départ. On passe d'ailleurs voir le champ, on fait le tour, on se met un peu à rêver. Un peu plus petit que ce qu'on recherche dans l'idée, mais c'est vraiment bien situé et il y a un rucher pédagogique à côté par exemple. Ça nous donne l'occasion de réfléchir plus concrètement à ce qu'on ferait sur un tel terrain. Après 6 mois voir différents modèles, c'est un exercice sympa.
On potasse un peu notre projet et voilà. On sait à peu près ce que l'on voudrait, dans les grandes lignes et dans ces conditions-là. On sait qu'on arrive un peu tard dans le processus de sélection, mais on se dit que ça vaut quand même le coup de tenter. On préfère ne pas avoir de regrets.
Le jour du rendez-vous arrive, on est un poil fébrile.
On rencontre des représentants de la mairie, dont une élue, et on ne s'y attendait pas, mais ils ont convié une personne de la chambre d'agriculture qu'ils ont missionnée pour les accompagner dans leur projet.
Ça nous fait un bon exercice de présentation de projet. Ce qu'on a imaginé. Commencer par mettre des engrais verts, par exemple de l'avoine ou de la févrole, pour préparer le sol, lui apporter de la matière organique et l'aider à se structurer. Ainsi, la vie du sol serait foisonnante.
On planterait des arbres, des arbustes et des petits fruits, et de la vigne. On commencerait le maraîchage en association avec le reste. Valérian serait à temps plein sur le projet, et moi, je chercherais un emploi, qui a du sens, pour 2 ou 3 ans. Avec ça, on teste le projet et les arbres grandissent, avant qu'on s'organise pour que je m'y joigne. Ce serait alors le moment de développer l'activité ou de dégager du temps pour la partie arboriculture.
Le tout serait mené de façon cohérente, productive et bio. La biodiversité serait au rendez-vous, les fruits et les légumes excellents et les paysans heureux.
On débuterait alors les animations et l'accueil pédagogique et on testerait la traction animale.
Avec des ânes, ces animaux si précis et si gentils,
on voit d'ailleurs plein de liens à faire entre notre projet et la vie de la commune. On pourrait commencer à présenter le projet aux habitants dès les premiers mois.
Ensuite, ces mêmes habitants deviendraient sensibles à la condition paysanne et à la biodiversité. Ils deviendraient alors actifs dans la map et dans la vie locale. La ville serait élue la meilleure ville de France où il fait bon vivre. Bref, on en ressort motivé. On trouve notre projet cohérent avec leurs perspectives. Bon, ils nous disent bien qu'ils nous recontacteront uniquement si le candidat qu'ils ont déjà rencontré avant ne correspond pas à leurs attentes. Et oui, en termes de calendrier, ils veulent vraiment que le projet soit lancé avant 2026, en vue des prochaines élections municipales.
On passe tout de même un peu de temps pour faire un dossier qui synthétise notre projet et notre parcours pour leur transmettre. Là encore, une bonne occasion pour commencer à concrétiser ce qu'on a dans la tête et le poser sur papier.
Quelques jours plus tard, on relance la mairie. Ils ont effectivement retenu l'autre candidat. C'est dommage pour nous, c'est super pour lui. Très content d'avoir tenté, rien que pour l'exercice. Maintenant, on se laisse un peu de temps avant de se pencher sur la recherche de terrain.
Nos derniers mois de cours, entre janvier et juin, sont dédiés à la construction d'un projet d'installation. Ça nous donnera le temps pour affiner notre projet, budget, liste des investissements, prévisionnel des cultures, etc. On garde en tête l'association avec nos camarades également. On a aussi profité de ces quelques jours pour commencer notre dossier technique. Le dossier technique, c'est un des devoirs sur lesquels on est évalué pour notre BPREA. qui est un peu notre rapport de stage. On doit par exemple analyser le fonctionnement de notre ferme de stage ou encore rédiger l'itinéraire technique d'un des légumes ou fruits produits. On va travailler dessus jusqu'en décembre et le présenter lors d'un oral sur notre session de février.
Notre mois de septembre se poursuit chez Yann à la lutte des fruits.
De retour dans la vigne donc, on a mangé un tas de raisins différents, notamment parce qu'il nous a emmenés voir un conservatoire local de raisins. C'est géré par la mairie et on y trouve des variétés très différentes, des raisins blancs, roses, noirs. Nous avons donc arpenté les rangs et goûté à chaque variété pour nous rendre compte de la différence de texture et de goût. Cette année étant très humide, on a aussi pu comparer les dégâts du mildiou selon les variétés.
Parmi ces variétés, certaines sont développées par l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Ce sont ces variétés qui semblent les plus résistantes. On trouve par exemple les variétés Aladin et Perdin.
Une info importante pour la suite, sachez qu'en France, les variétés de raisins sont classées dans un catalogue national officiel des variétés de plants de vigne. Ça définit les cépages qu'on a le droit de cultiver ou de vendre. Par exemple, les cépages développés par l'INRA sont considérés comme variétés d'agrément dans le catalogue et les raisins ne peuvent être vendus, seuls les particuliers peuvent en posséder.
Il y a d'autres variétés qui comptent parmi des vignes résistantes, Noah, Isabelle, etc. En plus d'être résistants aux maladies, ces raisins ont des goûts assez particuliers, un peu exotiques. J'ai eu l'occasion de goûter du raisin noir Isabelle, et c'est vraiment parfumé et délicieux.
Tous ces cépages ont été interdits en 1935. Plusieurs arguments sont avancés au moment de leur interdiction. On prétend que le vin fait à partir de ces cépages rend fou. D'autres sons de cloche mettent en avant que c'est l'aspect économique qui prime, puisque ce sont des vignes très concurrentielles.
L'interdiction est levée en 2003, mais seulement pour les particuliers. Ils sont donc toujours interdits de vente et n'apparaissent même pas dans le catalogue. Perso, je trouve ça très dommage que ce soit encore interdit pour les professionnels. Au nom de la concurrence, on laisse de côté des variétés anciennes ou développées par l'INRA qui permettraient de réduire énormément les produits phytosanitaires utilisés. Je suis pas loin d'y voir une décision prise pour arranger les vendeurs de produits phyto.
À part ça, c'était la première récolte de l'année pour le raisin. Pour récolter, on utilise une épinette. On contrôle le mûrissement avec la coloration. Cette coloration doit être de chaque côté de la grappe, donc on la retourne pour vérifier. Ensuite, on teste la fermeté des grains, qui doivent être légèrement mous.
Avec enfin une consigne particulière, t'as un doute, tu goûtes. Le raisin doit être doux et sucré.
Pour cueillir, on coupe la grappe au-dessus du premier grappillon. C'est la première zone où des baies sont présentes. Ensuite, on met cette grappe dans une caisse et on continue jusqu'à ce que la caisse soit pleine.
On effectue alors sur place le tri dans la grappe, qu'on appelle ciselage. Pour trier, on enlève les morceaux de grappe secs et les baies abîmées, trouées ou malades. Cela permet une meilleure conservation en évitant que les moisissures se propagent aux autres raisins.
Et voilà, une fois récolté et trié, le raisin est conservé en cave pour la vente.
Sur l'exploitation, Yann m'a aussi permis de tester le tracteur. Donc j'ai fait quelques petites manœuvres et voilà, j'ai pu tester un Massey Ferguson. Un petit tour le week-end à Angers pour voir les accroche-cœurs, un festival d'art de rue.
Encore ?
Et j'enchaîne avec une deuxième semaine chez Yann. J'y ai fait mon premier marché. Installer, discuter, peser, rendre la monnaie. C'est une ambiance plutôt tranquille et j'ai bien apprécié. C'est agréable de voir les légumes qui semblent appréciés eux aussi.
La fin du mois est rythmée par notre stage à la ferme Sapousse.
On arrive le dimanche pour profiter de la fête de la ferme, un rendez-vous annuel qui permet d'ouvrir la ferme et de proposer des animations et des spectacles. Au programme, par exemple, des stands de présentation des AMAP, un atelier pour faire des tawashi, des éponges avec des vieilles chaussettes, ou encore un spectacle pour enfants.
On en a croisé du monde ce jour-là. Près de 400 personnes étaient présentes. On a d'ailleurs demandé à quelques-uns ce qu'ils faisaient là.
Bah, je suis là parce que je suis un petit peu concerné puisque je fais partie d'une AMAP, une des trois AMAP qui sont fournies par la ferme Sapousse en légumes. Évidemment, on participe un petit peu en aidant à cette fête-là qui est tous les ans.
Bah déjà, ce n'est pas la première fête de la ferme que je fais. En général, j'essaie toujours de passer vite fait parce que c'est toujours sympathique. Alors oui, la ferme, effectivement, c'est toujours la même, mais ça fait toujours plaisir d'y être. Enfin, c'est, Il y a vraiment une bonne, une good vibes ici, qui est vraiment sympa et qui se dégage de l'ambiance générale.
Et on est venu découvrir un petit peu ce que c'était, parce que moi je ne connaissais pas du tout. C'est un ami qui m'a envoyé l'information et on a amené les enfants, parce qu'effectivement, comme il y avait des animations pour enfants, ça peut être toujours sympathique.
Il y avait une poule qui était dans le truc qu'ils ont planté. Et j'ai pas vu les lapins.
Bah, nous sommes ici parce que déjà nous, on vit à côté et on est très fiers entre guillemets d'avoir une association ici comme ça qui propose déjà des événements culturels et puis une philosophie de vie qui semble assez proche de la nôtre, notamment par l'aspect biodiversité et respect de la faune et de la flore. Voilà, donc on est assez content de pouvoir venir, de participer à ça et d'apporter un petit peu notre petite pierre à l'édifice.
En grande partie pour Thomas VDB, parce qu'on l'adore, on l'a adoré sur France Inter, et puis on espère le retrouver très vite peut-être sur Radio Nova. On a vu qu'Audrey, elle était sur Radio Nova, donc on espère le réentendre, et puis on était venu pour lui, en grande partie.
Du coup, bah, j'attends le spectacle de Thomas VDB qui va bientôt commencer.
Alors, on est à la fête de la ferme parce qu'on est à Mapien.
Oui.
Investi dans le monde local et qu'en plus il y a des spectacles qui sont proposés sur cette ferme tous les ans et c'est super chouette.
Et puis moi je me suis formé au maraîchage sur cette ferme donc c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur de rendre un peu la monnaie de la pièce et de venir donner un coup de main. Et l'an prochain nous nous installons en maraîchage avec madame
yes.
Dans un village pas loin. Ce sera la ferme du passage
à Chalon-Saint-Marc.
Vous serez tous et toutes les bienvenus.
La tête d'affiche, c'était Thomas VDB, qui est venu faire une dernière représentation de son spectacle « Thomas VDB s'acclimate ». De l'humour et du piquant, on a bien apprécié.
« J'arrive que vous avez prise !» Et le gars, à chaque fois, il dit comme ça, il dit « Vous savez, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Et à chaque fois, je dis comme ça devant ma télé, je me dis « Mais est-ce que j'aurais fait, moi ?» Et à chaque fois, je me dis « Non, ça c'est vrai, j'aurais pas fait. Hein. » Mais moi, ta première chose, c'est que je suis pas n'importe qui.
Et on n'a pas pu s'empêcher d'aller lui poser quelques questions avec notre micro.
Alors aujourd'hui, je suis venu à la fête de la ferme Sapousse parce que j'habite à 10 km déjà. Et j'étais venu accompagner ma compagne, Audrey Vernon, qui avait joué dans cette fête qui a lieu tous les ans ici au mois de septembre. Elle a joué il y a 2 ans. Et donc l'an dernier, j'étais en tournée, donc je n'ai pas pu venir. Mais, et donc j'ai joué aujourd'hui, c'est assez événementiel pour moi parce que c'était la toute dernière de toute la vie de mon spectacle. Alors ça fait 3 fois dans l'été, en fait même depuis 6 mois que je dis ça, parce que j'en ai fait une dernière de ma tournée. J'en ai refait 2 en festival cet été, mais aujourd'hui c'était vraiment la toute dernière fois que je le jouais de ma vie.
Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu parles de sujets écologiques, climatiques ?
Alors ces sujets m'ont explosé au visage il y a une dizaine d'années. C'est à peu près concomitant avec la naissance de mon premier fils et avec Audrey, ma compagne, qui elle est engagée, enragée, engragée, on va dire. Et donc, elle est ultra militante et pour elle, elle ne se pose pas de questions. Elle ne se pose pas de questions sur le fait qu'il faut s'engager et lutter. Elle est dans la lutte absolue. Et moi, je suis... c'était pas dans mes habitudes du tout d'être là-dedans. Et je voulais faire un spectacle qui parle de ce sujet sans être, en n'étant pas donneur de leçons. C'était vraiment un truc, un garde-fou que j'avais dans ma tête parce que je me suis dit, tu peux très vite être donneur de leçons quand tu t'empares de ces sujets-là. Et ça, finalement, soit tu joues devant un public de convertis, auquel cas c'est facile, quoi. Soit tu joues devant des gens, ce qui a été mon cas aussi, quand, pendant les 4 années où j'ai tourné, devant des gens qui croient qu'ils viennent juste voir un spectacle comique, qui sont un peu de droite, réac, conservateur. Alors il y a des gens gentils là-dedans, mais tu vois, en tout cas, des gens qui pensent que l'écologie, on en fait trop avec ces sujets-là, il faut arrêter de vous. Et moi, par contre, je suis convaincu qu'on n'en fait pas trop, qu'on n'en fait pas du tout assez avec ces sujets-là. Et donc je me suis dit, je voudrais faire un spectacle. Donc vous l'avez vu amputé d'un certain nombre de bouts parce que je m'étais dit, je ne peux pas le jouer en entier, ça va être trop long. Et puis en plus de ces bouts que j'avais prévu d'amputer, j'ai eu quelques petits oublis parce que je ne l'ai pas joué depuis 2 mois. Mais voilà, je voulais faire un spectacle qui parle de ces sujets-là et de comment ça me préoccupe et en n'étant pas donneur de leçons. C'était vraiment les 3 trucs que j'avais. Et donc, et surtout, en fait, le sujet de départ pour moi de ce spectacle, parce que c'est la première raison en fait pour laquelle je suis écolo, c'est que j'ai une phobie maladive et absolue de la chaleur, ce qui me handicape depuis enfant, hein, parce qu'avant qu'on se tape des canicules de dégénérés, c'était déjà le cas, vraiment, le soleil, c'était l'enfer. Donc quand on se prend des vagues de chaleur, pour moi, c'est de la panique. C'est vraiment de la panique. Et donc, ça a été la porte d'entrée pour moi de l'écriture de ce spectacle.
Okay. Est-ce que tu peux nous dire si tu arrives à mettre des choses dans ta vie d'artiste en place pour avoir un impact un peu moins important, justement ?
Alors, ben, comme je le dis dans le spectacle, je ne prends plus l'avion. Alors, je sais que ça paraît hyper radical comme décision, qu'il y a des gens qui sont là, mais espèce de gaucho, tu nous emmerdes. Alors, je ne dis pas que je ne reprendrai jamais de ma vie. C'est-à-dire que j'ai deux enfants, je n'ai pas envie de les priver d'un beau voyage ou de deux beaux voyages. Mais il y a encore 10 ans, j'allais voir mon pote qui habite à Barcelone en avion. Voilà, et maintenant je me dis, bon, je sais que l'avion est moins cher que le train, ça c'est un des immenses paradoxes de l'époque. Et le train est exorbitant en plus, et l'avion est donné. Ouais. Donc ça, c'est je ne peux pas acheter la pierre à tous les gens qui prennent l'avion. Mais par exemple, il y a ça. Qu'est-ce que je fais d'autre dans la façon de consommer, tu vois, forcément, on fait gaffe. Mais après, ça va rentrer dans les petits gestes. Ouais. Parce que si tu ne fais pas de la lutte, si tu ne t'engages pas, comme dirait l'autre, l'écologie, c'est du jardinage, quoi. Ouais. Et moi, je veux être entre le jardinage et la lutte.
On essaye tous d'être à peu près.
Bah oui, sinon tu te prends des arguments de tous les gens qui disent hey, mais t'es écolo, mais c'est quoi? Ça a coûté combien de ton enregistreur là, machin, hyper technologique, c'est pas écolo ça. Donc tu te prends ce genre d'argument un peu léger, quoi. Parce que je pense complètement qu'on peut être écolo très très engagé avec un smartphone, c'est pas la question. Mais sinon, qu'est-ce que je fais d'autre comme geste? Écoute, vraiment pas prendre l'avion, ne pas avoir de voiture. J'ai pas de voiture, je prends que les transports en commun. Et alors, encore une fois, comment?
Vélo ou pas vélo?
Vélo, mais vélo, ouais, vélo, mais en fait, comme on est près de la gare, là, dans la ville où on est, voilà, on a tout fait pour. Est-ce que les gens entendent combien on est dehors dans la forêt, je pense, en faisant cette interview?
Non, normalement, ça.
Ok. C'est pas grave, hein, j'ai pas honte d'être dehors. Oh la honte, ils sont dehors!
Ils prennent les transports en commun et
ouais, il n'y a pas de parapluie! Non, voilà, c'est. Ça fait partie des gestes que je fais, j'essaye d'être entre les deux, voilà. Mais en étant plus du côté très écolo quand même.
Ouais, ok. Et dernière question, est-ce que tu as une recommandation culturelle?
Non, j'allais dire, ah ben le Comte de Monte Cristo, mais parce que j'ai emmené mon fils le voir, mais ils ont déjà fait 8 millions d'entrées. Je pense qu'il y a d'autres artistes qui ont besoin d'être plus aidés, cela dit, c'est hyper bien le Comte de Monte Cristo. Ouais. Merde! Attends, t'as les Viagra Boys, c'est un groupe de rock, mais à chaque fois qu'on me demande, c'est d'eux que je parle. Donc déjà, il y a le Comte de Monte Cristo et les Viagra Boys. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Si, je suis en train de lire un thriller, c'est vraiment pas très intéressant. De Terry Hayes, c'est le mec qui a écrit Mad Max 2, et il avait fait un thriller géopolitique il y a 10 ans que j'ai lu sur les recommandations d'Audrey, parce qu'elle engloutit les livres, et moi je les approche vraiment, tu vois, sur des œufs, faut que m'en parle 15 fois pour que je prenne le livre. Et là, je lis un livre qui s'appelle « L'année de la sauterelle », qui est l'histoire d'une attaque terroriste dans le monde qui est contrée par un espion. Mais voilà, c'est très, très, c'est vraiment un thriller politique, mais hyper bien écrit. Et ce Terry Hayes, c'est un Australien, je crois, qui avait écrit « Calme blanc », qui a écrit des films, qui était scénariste de cinéma, « Mad Max 2 » aussi, et qui en est à son deuxième thriller. C'est vraiment monumental, quoi.
Trop bien.
Voilà.
Merci beaucoup. On va s'y pencher.
Merci. Génial.
Audrey Vernon est également présente. Elle était venue jouer son spectacle il y a 2 ans à la ferme, et elle a aussi joué le jeu de répondre à nos questions.
Alors, pourquoi j'ai choisi de jouer à la ferme Ça Pousse il y a 2 ans? Parce que j'habite pas très loin, j'habite à Étampes depuis 7 ans, que je suis très liée à la Confédération Paysanne Île-de-France, que j'ai beaucoup joué pour les soulèvements de la terre, et c'est de l'affection personnelle et de l'affection militante. Je parle de sujets écologiques parce que je pense que c'est la grande bataille de notre époque et que voilà, chaque époque historique a ses sujets importants à défendre et à mettre en art et sur scène et en mouvement. Et donc, moi, je pense que notre époque, c'est quand même le problème de la biodiversité, de l'effondrement du vivant. Et comme on a vu Tran qui était là aussi, et tout est lié, la guerre, l'écologie, l'agriculture, tout est là, c'est la même chose, quoi. Alors, en tant qu'artiste, disons que j'écris sur ces sujets-là et puis j'essaye de jouer pour des causes qui me tiennent à cœur, d'aller sur les avec les autres. Voilà, quoi, c'est un mélange un petit peu de tout. Quand j'avais écrit « Comment épouser un milliardaire », je jouais beaucoup pour les usines, pour les gens qui étaient en lutte dans les usines. Donc j'ai vraiment fait une vingtaine de représentations sur des lieux de lutte, que ce soit Mittal, Fralib, Petro Plus, voilà. Et après, quand j'ai créé le dernier Billion Dollar Baby, qui est vraiment sur l'écologie, J'ai joué contre la délocalisation de la raffinerie Total en Ouganda, en Seine-et-Marne, et ça m'a donné l'idée vraiment de me dire, ah, ce spectacle, il est incroyable sur des lieux de lutte. Et après, j'ai envoyé un message à des amis en disant, voilà, si vous avez des luttes paysannes ou des luttes locales qui ont besoin de soutien, moi, je viens jouer. Et c'était au moment du premier acte des soulèvements de la Terre, donc j'ai eu la chance d'aller jouer au Jardin des Vêtes. Et après, j'ai fait les autres actes avec beaucoup de joie. Une recommandation culturelle, il y a un très beau livre que j'adore qui s'appelle « Manifeste pour une nouvelle condition paysanne ». Et ce livre, vraiment, ouais, c'est un livre que j'adore. Et sinon, il y en a à peu près 1000. Mais voilà, j'ai un podcast qui s'appelle Big Books dans lequel je lis des livres qui m'animent et qui me rendent heureuse. Et voilà. Mais Manifeste pour une nouvelle condition paysanne, c'est vraiment super. Merci.
On entend Audrey Vernon noter la présence de Tran Tonga. C'est assez exceptionnel. Elle a raconté son combat pour faire reconnaître la responsabilité de 14 entreprises dans leur rôle dans la guerre des Américains au Vietnam. Elle les attaque en justice pour avoir vendu l'agent Orange, un désherbant, à l'armée américaine. Pour en savoir plus sur son combat, des liens sont dans la description. C'était une belle journée, joyeuse, familiale et conviviale. Encore bravo aux organisateurs et bénévoles des AMAP et de l'Assaut. Rendez-vous à la ferme.
De quoi nous mettre en forme pour les deux semaines suivantes, avec à nouveau plein d'activités et d'apprentissage. On a passé du temps avec Sylvie dans le laboratoire de transformation. Au menu, caviar d'aubergine et préparation de compote. Mémo pour nous-mêmes, si j'utilise du piment, je prends des gants, sinon ça picote.
Pour la compote, on utilise un appareil magique.
N'ayons pas peur des mots.
La raffineuse. Elle sépare la pulpe et tous les déchets du fruit, pépins, tiges, etc. La compote est magnifique à la sortie.
Nous sommes en automne, c'est la période de récolte des légumes de conservation.
Qui vont être stockés dans la chambre froide ou la pièce à courge. Ils seront distribués dans les paniers cet hiver. Radis noirs, betteraves, courges et plus récemment carottes. Les pommes de terre, quant à elles, sont récoltées par l'une de leurs collègues qui est plus équipée et mécanisée pour cette culture.
Il y avait aussi des machines pour les trier, grand tapis, puis elles passent dans une sorte de tamis qui fait tomber la terre. Après, ça passe par un autre tapis pour les faire remonter, les peser par 5 kg et cette fois les faire tomber dans des sacs que nous tenons en dessous.
À l'arrivée, environ 2 tonnes de pommes de terre mises en sac pour approvisionner les paniers des amapiens tout l'hiver.
L'un des gros chantiers du moment, ça a aussi été la destruction de l'engrais vert sous une serre.
Du sorgho en l'occurrence.
C'est fait avec le tracteur et un broyeur à marteau attelé derrière.
La matière est laissée sur place et par-dessus, on a étalé une bonne couche de compost de déchets verts.
L'idée, c'est de donner de la matière organique qui va être rapidement dégradée par les organismes du sol. Les éléments seront alors disponibles pour les plantes. Globalement, ce qu'on retient des pratiques des fermes qu'on a visitées, c'est qu'il est plus important de nourrir le sol pour rendre les aimants disponibles pour les plantes, plutôt que de nourrir directement les plantes avec de l'engrais.
On a aussi participé plus à la récolte de pommes.
Par exemple, pour la verveine, la menthe et quelques fleurs, notamment les calendulas, la camomille et les bleuets.
Une première pour les fleurs. C'est assez satisfaisant de les récolter, c'est coloré, et en 2 ou 3 jours, ça fleurit à nouveau.
En 24 ou 48 heures, les plantes sont coupées, séchées et prêtes à être mises en sachet pour préparer des tisanes par exemple. Pour finir cet épisode, voici nos recommandations du mois.
J'ai terminé ce mois-ci le manga Ikigami, écrit par Motoro Maze. C'est une uchronie qui part de la supposition qu'une loi appelée « Loi pour la prospérité nationale » est mise en place dans un pays fictif. Cette loi oblige tous les enfants à faire une vaccination avec un vaccin sur 1000 qui contient une capsule. Cette capsule causera la mort de la personne entre ses 18 et 24 ans. Ces personnes sont prévenues 24 heures avant leur mort. Cette loi est censée faire comprendre aux habitants la valeur de la vie. On suit un employé fonctionnaire dont le travail est de livrer ses préavis de mort appelés Ikigami. Au travers lui, on comprend comment et pourquoi est construit ce système et on suit l'histoire des personnes à qui il livre l'Ikigami. J'ai vraiment bien aimé. C'est assez malaisant, mais ça fait cogiter.
De mon côté, je vous recommande le film Anaïs, 2 chapitres, de Marion Gervais. On l'a vu à l'occasion d'une séance organisée par une asso féministe qui s'appelle Féministe en tout genre 45. Anaïs, 24 ans, s'installe comme agricultrice en Bretagne. Rien ne l'arrête. Ni l'administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps. Et 10 ans plus tard, Anaïs est maintenant mariée avec un jeune Sénégalais, Seydou. La dure loi des frontières compliquant tout, ils vont devoir se relever les manches ensemble. C'est un documentaire tourné sur 10 ans et ça nous a fait là encore réfléchir parce qu'il y avait pas mal de similitudes avec ce qu'on a pu croiser dans le milieu agricole et plein de choses qu'on a découvertes.
Dans le prochain épisode,
on vous racontera notre mois d'octobre,
une semaine de cours à l'ESA,
puis une semaine de stage pour moi dans un jardin de cocagne, une asso qui fait du maraîchage et de l'insertion.
Et enfin, une semaine à la pépinière avec Rémi.
À la prochaine.